Voilà, on est donc aujourd'hui Erev Hanouka. On a bien sûr comme l'habitude, à la veille d'une fête, on va parler sur Hanouka. On essaie de faire moins de bruit dans la cuisine, merci. Et donc on s'excuse d'abord du retard, il y a eu un problème d'internet, les lignes n'étaient pas branchées, donc on commence avec plus d'un quart d'heure de retard. On n'arrivait pas donc à se brancher avec internet. Et ça peut arriver, et on y va. Donc, la première chose qu'il faut remarquer sur Hanouka, c'est que cette fête-là est sous le signe du 8, les 8 jours de Hanouka. Et dès qu'on entend le chiffre 8 dans la Torah, tout de suite on pense à une autre mitzvah qui a été donnée avec le chiffre 8, bien sûr, c'est la Brit Mila. C'est pas, on pourrait dire, une autre mitzvah, c'est la mitzvah par excellence, celle qui ouvre, on pourrait dire, la Torah, celle qui ouvre le judaïsme, en ce sens qu'on rentre, un juif rentre dans la Torah par l'alliance, c'est pour ça que cette mitzvah s'appelle la mitzvah de l'alliance, il rentre donc dans l'alliance avec Dieu et avec la Torah par la circoncision. Et la circoncision se fait le huitième jour. En dehors de cette mitzvah, il n'y a plus aucune autre mitzvah dans la Torah qui est sous le signe du chiffre 8, à l'exception de Hanouka, les 8 jours de Hanouka. Il y a malgré tout, si déjà on veut absolument être précis, un autre endroit dans la Torah où on parle du 8e jour, c'est le fameux Yom HaShmini. C'est une paracha entière, paracha Shmini, le 8e jour, qui était le 8e jour d'inauguration du temple, du Mishkan, et le 8e jour après le commencement de son inauguration. L'inauguration a duré 8 jours, et c'est le 8e jour que la Shrina, que la présence divine, s'est révélée à l'intérieur du tabernacle. Donc il y a effectivement encore une fois un chiffre 8, c'est pas par hasard, c'est lié au tabernacle, on verra sans doute encore aujourd'hui pourquoi. En tous les cas, là-bas, il ne s'agit pas d'une mitzvah, il s'agit tout simplement d'un événement qui s'est produit, mais en tant que mitzvah, on n'a que deux mitzvot qui ont été données liées au chiffre 8, la mitzvah de la Brit Mila et la mitzvah de Hanouka. Donc il est clair qu'il y a forcément un lien entre les deux, et c'est ce qu'on va essayer de comprendre, entre autres à travers énormément d'autres notions. Alors, le lien, il est le suivant. La Brit Mila, comme on en a déjà parlé dans de très très nombreux cours, elle est le symbole de toute la Torah. En ce sens que toute la Torah a été donnée au monde pour révéler que, on pourrait dire, les lumières spirituelles, le monde spirituel, pouvait se dévoiler ici-bas, dans ce monde matériel, et qu'il n'y avait pas de coupure entre le haut et le bas. Toutes les religions pensaient, avant Abraham, ou plutôt avant Moshe, et toutes les religions, d'une certaine manière, continuent à penser, avec énormément de nuances, bien sûr, mais continuent à penser qu'il y a une coupure entre le haut et le bas, entre le ciel et la terre. Le monde chrétien va jusqu'à dire « Mon royaume n'est pas de ce monde ». Et d'une certaine manière, qui dit religion pense tout de suite que le vrai monde sera ailleurs, et que ici c'est uniquement, on pourrait dire, un passage qu'il faut supporter tant bien que mal, mais ce n'est pas là que se joue véritablement la rencontre entre l'homme et Dieu, ou entre Dieu et l'homme. Et le judaïsme est la seule religion qui affirme exactement le contraire. De tous les mondes possibles et inimaginables, depuis les plus spirituels jusqu'au plus matériel, le plus matériel de tous étant le nôtre, c'est précisément dans ce monde matériel tel qu'il est, que doit se passer la rencontre entre Dieu et l'homme plus que partout ailleurs. Et c'est tout de suite le lien avec le tabernacle qui, comme je vous l'ai dit, le tabernacle lui aussi a été inauguré le 8e jour, Yom HaShmini. Puisque comment s'appelle le tabernacle? Oel Moed, le lieu du rendez-vous. Un Moed, c'est un rendez-vous. Donc le tabernacle s'appelle le lieu du rendez-vous. Le rendez-vous entre qui et qui? Entre Dieu et le monde. Et c'est précisément ici-bas qu'a lieu le rendez-vous. Pourquoi? D'abord d'une manière très très simple, Parce que justement, toutes les autres approches religieuses refusent de croire que le rendez-vous est possible dans ce monde, parce que ce monde est trop vil, est trop grossier, trop matériel, est trop tout ce que vous voulez. Qu'est-ce que Dieu fait avec, qu'est-ce que Dieu a à faire de ce monde? Pourquoi se dévoilerait-il dans ce monde? C'est comme si on demandait à un roi puissant, magnifique, extraordinaire, de se dévoiler dans une poubelle. Et effectivement, si on regarde les choses de cette manière-là, on conçoit mal que Dieu puisse se dévoiler dans une poubelle. Mais nous, on répond que justement, c'est ça la grandeur infinie et illimitée de Dieu, c'est qu'il peut se dévoiler partout, même là où on ne l'attend pas, et même dans une poubelle. En ce sens que c'est à nous de faire en sorte que la poubelle d'aujourd'hui devienne le palais de demain. Nitava, Kadosh, Bochul, Yotlodira, Batartonim, que Dieu peut se dévoiler et veut se dévoiler précisément en bas. Donc, le tabernacle qui est le lieu du rendez-vous est justement appelé Ohel Moed, et il est lié au chiffre 8, comme la Brit Mila. Alors maintenant, on comprend pourquoi la circoncision, oui.
Il y a une différence entre le tabernacle et une poubelle. C'est un endroit kadosh, le tabernacle. Dieu se révèle dans un endroit kadosh. Je vous donner un exemple ici.
C'est extraordinaire comme tu prends exactement l'exemple qui confirme tout ce qu'on dit, puisque Dieu s'est effectivement, dans le tabernacle, dévoilé dans une poubelle. Il s'est dévoilé dans un désert. Au départ, c'était un désert. Un désert où il n'y a pas de vie, où il n'y a pas d'eau, où l'homme ne peut pas y vivre. Le désert est le symbole même de l'anti-vie, de l'anti-monde, de l'anti-tout ce que tu veux, puisque c'est l'endroit de la mort. Comme le dit la Torah, je vous ai entouré de nuées, je vous ai nourri, et je vous ai donné à boire dans un endroit, Hamidbar Agadol Ve'anora, un endroit terrifiant, où se trouvent des serpents et des scorpions. Donc au Hadraba, c'est exactement le contraire. Pour la première fois, en vérité, Dieu a fait deux dévoilements inimaginables dans l'endroit qui est l'anti-vie par excellence. Le don de la Torah et le tabernacle. Justement, un endroit de Kippot. C'est très bien que d'après la Kabbalah, je n'ai pas trop envie de m'étendre, parce que sinon ça va faire 10 cours en tant que tel. C'est que d'après la Kabbalah, on sait très bien que tous les endroits de ce monde sont reliés d'une certaine manière à des sarim, ce qu'on appelle, on pourrait dire, des forces spirituelles, qu'on pourrait traduire par des anges, mais le mot ange est extrêmement, on pourrait dire, évocateur d'autres notions, surtout en français, donc je ne veux pas trop l'employer. Dans tous les cas, chaque partie de ce monde est reliée à un Kohar Elyon, à une force supérieure en haut, et selon, on pourrait dire, l'état, la grandeur et la force de cette force, alors l'endroit en bas va être plus ou moins béni. Ça veut dire avec de l'eau, avec de la vie, avec de la force, avec des énergies, avec tout ce qui fait que la vie sur terre est possible. Et donc, le Zohar et la Kabbalah expliquent que le désert est relié à des forces de mort, qu'on appelle entre autres le Samer même, d'accord, l'ange de la mort, si j'ose m'exprimer ainsi. Ça veut dire, et c'est parce que ces endroits sont reliés à des forces de mort, que en bas, il ne pousse rien et la vie est absolument impossible. Ça va même beaucoup, beaucoup plus loin que ça. Le Zohar affirme que quelqu'un, je crois que je l'avais dit d'ailleurs dans un autre cours, que quelqu'un qui a traversé le désert, lorsqu'il sort du désert, bon, d'abord il y a une bénédiction à faire. Bon, s'il était, je ne parle pas d'une petite promenade en Jeep, mais s'il a vraiment été dans le désert, il y a une bénédiction à faire pour remercier d'être sorti de là. Et d'après le Zohar, il faut même se tremper dans un migvé. Il faut se purifier dans un migvé à cause de toutes les forces impures qui se collent à celui qui a traversé le désert. Pourquoi? Parce que c'est un endroit de mort. Non, et là, c'est un endroit de vie.
Non, mais on passe par le désert.
C'est pas ce désert-là qu'on parle, parce que comme il y a des voitures qui passent sans arrêt, c'est déjà plus le désert. Je parle vraiment d'un endroit où il n'y a pas de vie, véritablement. Vraiment un endroit de mort. Les parties du désert qui sont civilisées ne s'appellent plus le désert. C'est pas le décor qui est le désert. C'est est-ce qu'on y vit ou on n'y vit pas. Il y a des villes entières qui sont construites dans le désert. Beersheba est une ville qui est construite dans le désert. Arad aussi. Mais je parle du désert tel qu'il est encore aujourd'hui. Le Zohar affirme que c'est un endroit où il y a des ruchot tmeot, des forces impures, au point qu'un homme doit se purifier lorsqu'il sort d'un tel endroit. Comme quand on sort d'ailleurs, exactement, d'un cimetière. Tout le monde comprend que quand on sort d'un cimetière, on se purifie. Quand on sort d'un désert aussi, pourquoi? Parce que s'il n'y a pas de vie à cet endroit-là, c'est donc la preuve que les énergies qui se répandent à ce moment-là sont des énergies de mort. Donc c'est précisément à cet endroit-là que Dieu décide des deux dévoilements les plus forts de l'histoire du monde, le don de la Torah et le tabernacle, comme pour bien nous montrer que précisément là où il y a, dans un premier temps, mort et impureté, c'est là que Dieu se dévoile, parce que justement c'est ça sa puissance infinie, c'est ça le Hachem Echad, le Dieu est un, qu'il est capable de se dévoiler là où personne ne l'attend. J'ai déjà expliqué d'ailleurs, si déjà je parle de ça, bon mais le temps avance, espérons qu'on arrive d'ici la fin du cours à tout dire, mais en tous les cas, j'ai expliqué que ce phénomène on le retrouve à la fois dans le temps, dans l'espace et dans l'homme. Dans le temps, je viens de l'expliquer, dans l'endroit le moins monde qui existe, monde dans le sens civilisé qui existe, c'est là que Dieu a donné les deux plus grands dévoilements de sa présence, la Torah et le tabernacle. Dans le temps, le moins temps qui existe, le plus, on pourrait dire, le plus dur au niveau temps, c'est là que Dieu a donné la sainteté du Shabbat. On sait que d'après les astres, l'astre du samedi est un astre de sang, un astre de mort, un astre de colère. C'est l'astre de Ma'adim, l'astre de Ma'adim qui est l'astre rouge. Ma'adim, je ne sais pas, je crois que c'est... Je ne sais plus exactement. En tous les cas, peu importe. En tous les cas, le Zohar dit que l'astre du samedi est un astre extrêmement dur pour le monde. C'est un astre rouge, un astre de colère et de sang. Et c'est donc un astre qui est tout le contraire du repos et de la, on pourrait dire de la plénitude et du bonheur qu'on ressent à Shabbat lorsqu'on arrive à le ressentir. Et c'est précisément ce jour-là que Dieu choisit pour en faire son Shabbat, un jour de sanctification, un jour de repos, un jour de bonheur. Toujours la même notion. Qu'est-ce que fait Dieu ? Il prend précisément la partie du monde ou la partie du temps où on s'attend le moins à le trouver, et c'est là-bas qu'il se dévoile et il le sanctifie. Aujourd'hui, dans le souvenir du juif, quand on se rappelle l'époque du désert, on voit ça comme une époque complètement idyllique. Ah, ils étaient entourés de nuées, ils recevaient du pain gratuit, ils recevaient de l'eau gratuitement, ils n'avaient aucun souci, aucun problème. Un Gan Eden. Mais attends, mais on oublie, mais ce Gan Eden, c'est quoi? C'était le désert, le seul endroit où un homme ne peut pas vivre. C'est là où on a vécu le mieux. De même, quand on parle du Shabbat, surtout en pleine semaine, surtout on pense à la table de Shabbat, le repos, la sieste, la famille, quel bonheur. Mais on oublie qu'au départ, le samedi et le jour le plus, entre parenthèses, dur et maléfique de la semaine, s'il y avait le Shabbat. Et de la même manière, au niveau des peuples, Dieu a pris le peuple le plus dur, qui est le peuple juif, comme on a souvent expliqué, Am Kacheoref, un peuple dont le Ophi, dont le tempérament est extrêmement dur. Il a pris le peuple le plus dur, comme dit la Gemara elle-même, le Talmud dit que la Torah, d'une certaine manière, vient dompter les forces terribles qu'il y a dans le peuple juif, et donc il va prendre le peuple le plus dur, et il va en faire son peuple, de manière à ce que, justement, dans le peuple où le projet était le plus difficile, là-bas il va réussir. Comme pour dire que s'il réussit avec nous, il peut réussir avec tout le monde. De la même manière, si Dieu peut sanctifier le samedi, alors il peut sanctifier tous les jours. Si Dieu peut sanctifier le désert, alors il peut sanctifier toutes les terres. Donc Dieu est toujours, on pourrait dire, en quête d'un projet le plus dur possible, et il réussit dans ce projet, et il montre, voyez, rien ne m'est impossible, puisque même là, j'ai su imprégner ma sainteté. Et donc, bien sûr, c'est ça le secret de la Brit Mila. Dieu prend la chair, et ce qui est déjà en soi un chidouche, qu'il veuille marquer le signe de son alliance dans la chair, et pas dans l'esprit. En plus, dans la chair, il choisit l'endroit le plus sauvage de la chair, et c'est là-bas qu'il imprègne son signe et qu'il dit « mon alliance est là ». Comme pour dire « je lève finalement un pari impossible, je veux m'unir avec la partie la plus sauvage de l'homme, et si j'arrive à cet endroit-là, à ce moment-là, c'est sûr que j'arriverai partout ailleurs. » Donc ça, c'est l'esprit du judaïsme. Dieu n'a pas peur du monde matériel, il n'est pas impressionné par lui, mais pas dans le but parce qu'il peut le détruire, parce que ça c'est facile à détruire le monde matériel pour Dieu, mais dans le but qu'il peut le sanctifier et donc transformer la poubelle en trésor, en palais. Maintenant, pourquoi le chiffre 8? Alors, le chiffre 8, pourquoi c'est le chiffre 8 qui symbolise ça? Parce que le chiffre 8, comme on le sait, fait allusion à la première sphira, au premier des attributs divins qui est au-dessus de ce monde. Rappelons-nous qu'il y a 10 attributs divins, et ici on va compter les 10 attributs divins en comptant Keter comme étant le premier. Vous savez très bien que les Mekoubalim disent qu'on peut compter les 10 attributs divins soit de Chorma à Malchut, soit de Keter à Malchut, et la différence c'est que si on compte de Keter à Malchut, on enlève Da'at, car Da'at ce n'est que Keter. Quelle est la différence entre compter les 10 attributs divins de Keter à Malchut ou de Chorma à Malchut? C'est-à-dire que si c'est de Chorma à Malchut, on ne compte pas Keter, parce que Keter serait la 11e, Sphira, le 11e attribut. La différence est, comme j'avais déjà expliqué, qu'en état d'imperfection, en état d'exil, on compte les lumières divines de Chorma à Malchut, et il manque la couronne, il manque Keter, mais en état de perfection, donc en état normal, entre parenthèses, on compte les attributs divins de Keter à Malchut, on commence par la couronne. Et donc si on compte les attributs divins en état normal, c'est-à-dire tel qu'il brille vu côté Dieu, parce que vu côté Dieu, les attributs sont toujours normaux, alors on fait Keter premier, Chorma Bina, après Chesed Gvura Tiferet Netzar, Yesod, Od, Yesod et Malchut, 10. Et donc si on compte du bas vers le haut, on va remonter maintenant, on va s'apercevoir que la Bina est la 8e Sphira. On commence par le bas, Malchut, la dernière Sphira, on monte, Yesod, Od, Netzar, Tiferet, Gvura, Chesed, Bina. La Bina est donc la 8e. Du bas, on fait Keter, Bina, Chochma, Keter. On a donc Bina. Ça, c'est dans les sphirotes, vu côté Dieu, c'est-à-dire ce qu'on appelle les lumières divines. Ce qui veut dire que, donc, que la Bina est liée au chiffre 8, c'est la 8e sphira en partant du bas. Alors maintenant, ça nous donne une indication énorme. En sachant que le monde a été créé sous le signe du 7, les 7 jours de la
semaine.
Ce qui veut dire que le temps dans notre monde matériel et sous le signe du 7. Ce qui signifie que tout ce qui est au-dessus du 7 fait déjà partie de ce qu'on appelle, vous le savez, la surnature, ce qui est au-dessus du monde matériel. Dit d'une autre manière, le chiffre 7 est le chiffre qui représente toutes les forces, toutes les énergies qui sont à l'intérieur de ce monde matériel et qui respectent ce monde matériel et qui s'habillent à l'intérieur de ce monde matériel sans brusquer et sans transformer ses lois. Alors qu'à partir du chiffre 8, on a un dévoilement de forces surnaturelles, c'est le miracle de Hanouka, des énergies surnaturelles qui sont au-dessus de la nature et qui sont donc capables d'agir dans ce monde en dépit des limites et des lois de la nature. Ça, c'est le chiffre 8. Donc on comprend maintenant, d'abord dans un premier temps, qu'il y a donc trois choses qui sont sous le signe du chiffre 8. L'alliance avec l'homme et Dieu à l'endroit de la Brit Mila. Pourquoi le chiffre 8? Parce que pour que l'homme arrive à s'unir à Dieu à cet endroit-là, il lui faut recevoir des forces qui sont complètement surnaturelles. Comment un homme, dans l'endroit le plus charnel, dans l'endroit le plus sauvage, peut-il arriver à s'unir à Dieu à cet endroit-là? Si ce n'est qu'il est doté de forces complètement surnaturelles qui lui permettent donc d'être au-dessus de sa nature. Et donc, effectivement, tout juif qui est circoncis a au moins potentiellement en lui des forces inimaginables qui vont lui permettre dans ce monde de résister là où tout le monde faute. C'est pour ça donc que, par exemple, une des choses les plus extraordinaires qui montre, et comme le Zohar explique, qui montre la grandeur complètement surnaturelle du juif, c'est le respect des règles de pureté familiale. Et regardez cet exemple-là que le Zohar considère comme étant, on pourrait dire, le témoignage de la surnature du juif. Pour nous, ça nous paraît quelque chose de tout à fait naturel. On est naturellement à un état miraculeux. Ça nous paraît tout à fait naturel, nous, de ne pas avoir de relation avec l'épouse pendant la période interdite, donc les 12 jours, plus ou moins, d'accord, 12 jours, 5 jours de Nida, et 7 jours de purification jusqu'au mikvé. 12 jours par mois, un juif n'a pas de relation avec sa femme. Et il a le droit d'être dans la même chambre, d'accord ? D'être dans des lits séparés, c'est vrai, mais d'être dans la même chambre, le soir on ferme la porte, il n'y a pas de lumière, on va savoir ce qui va se passer. Et d'une manière tout à fait naturelle, un juif équilibré, normal, n'a même pas l'idée à ce moment-là de toucher sa femme. Ça veut dire que d'une manière tout à fait naturelle, le juif a intégré quelque chose qui est complètement surnaturel. C'est complètement fou, surnaturel, de demander à un homme et une femme d'être séparés pendant 12 jours par mois alors qu'elle est sa femme et elle est son mari. Vous me direz encore, pendant la période véritablement du sang, alors à la rigueur on peut comprendre, même les non-religieux ou les non-juifs peut-être s'éloignent à cette époque-là, ne serait-ce que pour des questions d'hygiène, certainement pas pour des questions morales. Mais après les 3 ou 4 jours d'écoulement, pourquoi une fois que la femme est complètement propre, pourquoi il n'aurait pas de relation entre eux? Et nous, on attend non seulement 5 jours pour être sûr qu'il n'y a pas du tout d'écoulement, et en plus on rajoute encore 7 jours de purification jusqu'au mikvé. Et c'est quelque chose qui est complètement, on pourrait dire, intégré dans la nature du juif, au point qu'il n'arriverait même pas à comprendre comment quelqu'un aurait une difficulté à résister et à vivre une loi pareille. Le Zohar dit, c'est la preuve comme quoi la surnature fait partie intégrante de la nature juive. Parce que pour quelqu'un qui n'a pas ces forces en lui, ça va lui paraître fou. Combien de gens, on le sait, hésitent à faire teshuva, rien que parce qu'ils se disent, mais qu'est-ce que je vais faire avec la kashrout, le shabbat, et surtout avec les lois de la pureté familiale. Pour nous qui sommes dedans, on n'arrive pas à comprendre comment ça peut être un problème. Mais chez ce juif-là qui hésite à faire teshuva parce qu'il a peur d'être confronté aux lois de pureté familiale, il a aussi cette force en lui, seulement comme il est encore, entre parenthèses, dans la faute, ça ne s'est pas encore dévoilé chez lui. Mais une fois que ça va se dévoiler, il va regarder rétroactivement et il va se dire, mais comment j'ai fait pour être loin de cette chose-là? C'est tellement évident. Mais en tous les cas, évident ou non, depuis qu'un juif est circoncis, il peut dévoiler en lui cette force de manière tout à fait naturelle. J'ouvre une parenthèse. Un juif qui ne serait pas circoncis, d'après ce que j'explique, ne peut en aucun cas accomplir les lois de la pureté familiale. Supposons qu'il n'est pas circoncis, pour X raisons. Imaginez-vous, sans citer un cas, X qui arrive de là où il arrive, pendant 70 ans on les a empêchés de se circoncire, il arrive ici, il n'est pas encore circoncis, mais il entame un processus de teshuva, et il est marié. Il veut commencer par faire pureté familiale, il dit bon la brit mila je la ferai dans 2 mois, dans 3 mois, le temps de la préparer. Ça va lui être très très dur, je ne dis pas qu'il ne pourra pas, mais ça va être pour lui une souffrance terrible de se séparer de sa femme pendant 12 mois. 12 jours. Et dès qu'il va être circoncis, hop, ça sera facile. Pourquoi ? Parce que justement, le fait d'être circoncis va dévoiler ses forces qu'il avait de toute manière en lui. Il les avait en lui. Seulement, comme elles étaient bloquées par le fait qu'il n'était pas circoncis, il était déconnecté de ces forces-là, et donc c'est comme s'il ne les avait pas. Dès qu'il est circoncis, à ce moment-là, il y a un branchement entre sa surnature et lui, et de manière tout à fait normale, il peut supporter cette chose-là. Donc c'est pour ça que la Brit Mila a été donnée le 8e jour, comme pour nous faire comprendre que Dieu veut s'allier à nous dans la sauvagerie de la chair, et que Dieu sait que c'est extrêmement difficile, voire impossible. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il va nous doter de forces surnaturelles qui proviennent de l'attribut divin qui s'appelle la Bina. C'est un attribut divin qui possède des forces extraordinaires. Et comment Dieu nous connecte à la Bina? Il nous connecte à la Bina en nous demandant de nous circoncire. Ah, pourquoi cette mitzvah particulièrement? C'est un sujet en soi qui n'est pas le sujet aujourd'hui. Mais en tout cas, dès qu'on se circoncit, hop, le branchement avec la Bina s'opère, on reçoit ses forces surnaturelles, et tout naturellement, on peut vivre dans la même chambre que notre épouse 12 jours par mois, sans se séparer et sans avoir le moindre problème.
Est-ce qu'il y a une disposition des astres spéciale le 8e jour?
Je ne sais pas. Je ne sais pas.
Vous avez dit par rapport au Shabbat.
Je ne sais pas. Mais non, de toute façon, ça tombe tous les jours. Le 8e jour de chacun, c'est pas le même pour un autre. Le 8e jour, il tombe tous les jours. Chaque Brit Mila se fait tous les jours de la semaine. Et plusieurs fois par jour. Donc, c'est sûr, c'est pas lié aux astres. C'est pas lié aux astres. C'est lié au 8e jour après la naissance de la personne. Je sais que ça correspond à quelque chose, Behemet, mais je saurais pas te dire. En tous les cas, on a compris donc le 8e jour. de la Brit Mila. On comprend le huitième jour du tabernacle, pour toutes les raisons qu'on a expliquées, pour que Dieu puisse se dévoiler dans son monde. C'est déjà un miracle en tant que tel. En plus, se dévoiler dans un désert qui est, d'après ce qu'on a expliqué, selon la Kabbalah, un endroit où règnent toutes les forces contraires à la pureté et à la sainteté, puisque c'est un endroit de mort, un endroit de serpents et de scorpions. Donc automatiquement, toutes les forces de la mort ou toutes les forces de la non-vie se trouvent à cet endroit-là. Et c'est précisément à cet endroit-là que Dieu, qui est la source de toute vie, de tout progrès, de tout développement, va se dévoiler. Donc pour que, on pourrait dire, cette union impossible se réalise, il faut que se dévoile une force qui provient d'un, on pourrait dire, d'un attribut qui est au-dessus de ce monde. C'est le huitième, c'est la Bina, encore une fois. Donc la Bina va permettre un dévoilement qui est complètement, complètement surnaturel. Et enfin, on revient à notre cours, Hanouka. Hanouka aussi, puisque Hanouka est sous le signe du chiffre 8, ce qui prouve donc que Hanouka est aussi, selon l'esprit, en plus d'un dévoilement qui est complètement surnaturel. Et c'est ça le sens de la fête de Hanouka. C'est pour ça que le miracle a duré 8 jours, ça aurait pu très bien être 9 jours. Et si ça avait été 7 jours, ça aurait déjà été un miracle en tant que tel, comme demandent les commentaires. C'est clair qu'il n'y avait pas une obligation que ce soit 8 jours, puisque la fiole ne pouvait brûler que pendant un jour. Donc, dès qu'il y a plus qu'un jour, c'est déjà un miracle. Si la fiole avait brûlé 3 jours, on aurait aussi fait la fête de Hanouka. On ne l'aurait peut-être pas appelé Hanouka, on l'aurait peut-être appelé Ganouka. Parce que Chet, ça veut dire 8, on l'aurait appelé Ganouka, Guimel 3, peu importe. Mais en tous les cas, dès que c'est plus qu'un jour, on est déjà dans le miracle. Alors pourquoi Dieu a voulu que le miracle dure 8 jours? Pour bien nous faire comprendre que le miracle a été possible grâce à l'intervention de la Bina, la huitième Sphira, le huitième attribut du bas vers le haut, comme pour nous montrer que ce miracle de Hanouka est à comparer au miracle de la Brit Mila, qui est un miracle comme on vient d'expliquer, et au miracle du tabernacle, comme on vient d'expliquer, c'est dans le même esprit. Alors pourquoi? Alors maintenant on va revenir à la fête de Hanouka elle-même, et on va donc comprendre techniquement. Comment?
Les Grecs ont pêché la Brit Mila.
Justement, bien sûr, on va le voir. C'est lié justement aux Grecs. Le premier grand décret que les Grecs ont émis, c'est évidemment tout de suite l'empêchement de la Brit Mila et la souillure du temple. Évidemment, on va retomber sur nos pas. Ils empêchent la Brit Mila et ils souillent le temple. Comment ils souillent le temple? Dans les huiles, qui est le symbole de la pureté du temple. Et donc justement, les Grecs ont tout compris, puisque ce sont des philosophes. Ils s'attaquent aux trois symboles du 8, la Brit Mila, le tabernacle, et donc d'où la réponse, les Hashmonaïm. Hashmonaïm, dans lesquels on retrouve bien sûr Chet et Shmoné. Les Hashmonaïm, c'est 2 fois 8. Ça commence par un Chet, dont la valeur numérique est 8, et le nom après le Chet, c'est Shmonaïm. 8, Shmoné. Donc, Shmoné, Shemen, etc. Dans Shemen, Yashmoné. C'est la guerre des 8. Il y avait la guerre des boutons dans le temps, maintenant c'est la guerre, ou la guerre des étoiles, ou la guerre de ce que vous voulez, c'est la guerre du 8. Hanouka, c'est la guerre du 8 contre le 8, comme on va voir tout de suite. Donc, tu as compris la chose, tu as devancé, je reviendrai maintenant après dans l'ordre. Donc maintenant, comprenons dans la structure de Hanouka comment cette fête symbolise effectivement un pari impossible. D'abord, c'est la seule mitzvah, la seule, je dis bien, à part une autre, avec une différence, la seule mitzvah qui se fait du côté gauche, vous allez me dire, non, encore, vous aurez raison, mais je n'ai pas fini, la seule mitzvah qui se fait du côté gauche, et aussi qui se fait à l'extérieur, c'est-à-dire dont toute l'intention, c'est d'éclairer l'extérieur. Toutes les mitzvot, à l'exception d'une autre, toutes les mitzvot tfilin, bien sûr, qui se fait aussi, mais pas toute la mitzvah, parce qu'il y a en vérité les tfilin de la tête, bon, qui sont ni à gauche ni à droite, qui sont au centre, et effectivement les tfilin du bras qui sont à gauche, on verra pourquoi. Mais, à part les tfilin qui sont à gauche, comprenez d'abord que tout acte religieux se fait du côté droit. Au temple, par exemple, c'est tellement important que si un Kohen prend un ustensile du temple du côté gauche, ou bien fait une avoda avec la main gauche, pardon, l'avoda est psoula, l'avoda n'est pas kshara, il faut tout recommencer. Donc, maintenant, nous, on sait que justement, comme on voit que la Torah a tellement insisté au niveau des Kohanim pour dire que la avoda doit toujours être du côté droit, Alors, ce qui fait que toutes nos mitzvot, on les fait du côté droit. Même quand on met les chaussures, on commence à mettre la chaussure droite. Vous savez que ça va très très loin. Je ne parle même pas des mitzvot, les brachot, les bénédictions. Quand on fait une bracha, une bénédiction, on tient l'objet dans la main droite, jamais dans la main gauche. Baruch ata Hashem, borei pri haetz, toujours le kiddush, tout. Même plus que ça, quand on tient le kos de kiddush, il faut faire attention de ne pas vers la main gauche. D'après le Zohar, faire attention que la main gauche ne touche pas le verre. Il faut complètement éloigner la gauche. Il faut être toujours dans le droit. Pourquoi ? Parce que, comme on va le voir tout de suite, le droit est le symbole du spirituel, la gauche est le symbole plus du matériel. Le droit est le symbole du ciel, la gauche est le symbole de la terre. La droite est plus le symbole du bien, la gauche est plus le symbole du moins bien. Et donc, automatiquement, donc, tout culte, tout service divin se fait toujours du côté droit. Et chez nous, ça va, même jusque dans les moindres détails, pas tout le monde le sait, mais c'est bon à rappeler. Par exemple, quand on se lave, on commence toujours par laver les parties droites. On commence par le haut, vers le bas, et du côté droit, vers le côté gauche. Quand on s'habille, on enfile toujours le côté droit avant le côté gauche. On donne toujours une priorité à la droite, toujours, 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 dès qu'on peut, bien sûr, il ne faut pas non plus en faire une maladie, mais dès qu'on peut, quand on doit, par exemple, on peut se rendre à un endroit en passant par la droite ou passant par la gauche, nos maîtres disant le Talmud, toujours prend le côté droit. C'est une manière profonde d'exister et d'être, toujours aller vers la droite. Parce que la droite est toujours le symbole de ce qui est, on pourrait dire, spirituel, lumière et bien. La gauche, comme on le sait dans la Kabbalah et le Zohar, a toujours, on pourrait dire, la symbolique inverse. La gauche est toujours l'obscurité, c'est pour ça que c'est une main difficile, c'est toujours la matérialité, c'est toujours ce qui est éloigné, c'est toujours ce qui est terrestre. De la même manière que Dieu a créé le monde sur le principe du ciel et de la terre, du jour et de la nuit, du bien et du mal, du bon et du mauvais penchant, il a créé dans l'homme et dans le monde le côté droite et le côté gauche.
Comment ? On pensait
à droite et de gauche.
Et les gauches.
Non, absolument, absolument. Mais c'est... Comment ?
C'est aussi le mot sinistre. Sinistre
veut
dire à l'origine
gauche. En latin ou en grec ? Sinistre veut dire gauche ? Sinistre.
C'est l'enlever des
films
de la terre.
En italien,
sinistre. Non.
Ah, j'ai lu.
Non. J'aimerais bien le voir.
La main gauche qui enlève les films de la terre.
Quelqu'un a vu ça, qu'on enlève les films de la tête avec la main gauche ?
Je me trouve Dieu le
Bon, ça je n'ai pas vu. En tous les cas, bon, il y a peut-être différents minagis. Non, mais c'est le gaucher, lui, sachant, parce que pour lui, sa main gauche, sa main droite, etc. Donc il y a pas, ça reste toujours le principe de la main gauche. Même le gaucher, d'après lui, sa droite, c'est la gauche. Donc ça veut dire que c'est toujours le même principe que la tefiline se met sur la main gauche.
Non, j'ai entendu que selon un kabbalah, même les gauchers doivent mettre à gauche le...
Et il y a une marloquette là-dessus, mais finalement non. Finalement non. Il y a une grande marloquette là-dessus. Mais disons qu'il y a par contre d'autres mitzvot où même un gaucher fait aussi avec la gauche de tout le monde. Mais pour les tefilines, la halakha est que non, il fait selon sa gauche à lui. En tous les cas, bon, revenons maintenant à ce qu'on explique. Donc, autre différence énorme, je ne dirais pas toutes, mais la grande majorité des mitzvot se font aussi le jour, et pas particulièrement la nuit. Et même des mitzvot qui se font aussi la nuit, se font aussi le jour. Donnons un exemple. Il y a deux mitzvot qui se font particulièrement la nuit, mais pas que la nuit. Manger de la matzah le soir du seder, bien sûr, et être dans la soukha le premier soir de Soukhot. Mais, à la différence de Hanouka où tu ne peux faire la mitzvah que la nuit, la mitzvah de Pessah et la mitzvah de Soukha continue aussi pendant le jour. Si quelqu'un après pendant le jour veut manger, il mange la matzah et non du Hametz. Pareil pour la Soukha, il mange la Soukha et non dans la Soukha. C'est une mitzvah qui commence la nuit mais qui se propage dans le jour. Là à Hanouka on a une différence extraordinaire avec toutes les mitzvot, c'est la seule qui est entièrement dans la nuit et que tu ne peux pas faire le jour. Si quelqu'un sait qu'il ne pourra pas être la nuit chez lui et il veut allumer les Hanoukia pendant le jour, il ne peut pas faire la bracha, il n'accomplit pas la mitzvah. Il y a une marloquette au niveau de la halakha que s'il met suffisamment d'huile pour que ça continue à brûler la nuit, est-ce qu'il est quitte de la mitzvah? Il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non, mais en tout cas c'est sûr, comment? Non, c'est une très bonne preuve qu'on rapporte. Avec la différence, c'est que Shabbat, dans la mesure où le Shabbat rentre à ce moment-là, juste après l'allumage, c'est comme si la nuit rentrait, puisque finalement Shabbat c'est le prochain jour. Donc c'est comme le Shabbat c'est un jour spécial où la nuit commence le jour, si tu veux. Voilà, puisque la preuve c'est que c'est Shabbat. Donc c'est pas une super preuve, bien que c'est une preuve. Dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est que essentiellement c'est une fête qu'on fait la nuit.
Donc l'obligation d'allumer la flamme qu'il y a le jour dans les synagogues.
C'est parce que c'est un minhag, c'est pas la halakha. Comment les pauvres qui étaient dans la synagogue. Alors on continuait, qui eux dormaient dans la synagogue, donc on allumait la Hanoukia pour eux. Juste avant la nuit, juste avant la Shkia, on allume. On allume. Juste à un moment où c'est déjà pour beaucoup d'halakhot, c'est le commencement de la nuit. Non, ça c'est un simple minhag qu'on fait. C'est même pas un minhag, c'est simplement. Non. Mais la halakha est de toute façon au plus, tu allumes, on va dire, à partir de ce qu'on appelle le commencement de la Shkia, parce que c'est la nuit halakhique, si vous voulez. Mais en plein jour mamash, quand c'est encore vraiment le jour d'après tout le monde, personne dit qu'on peut allumer. Il y en a qui disent qu'on peut allumer encore un petit peu avant la nuit noire, on commence à allumer à partir de la nuit halakhique qui est la Shkia. Par exemple, chez Chabad, on allume à la nuit halakhique, c'est-à-dire la Shkia. Il ne fait pas encore nuit à nos yeux, mais il fait nuit selon le sens profond du terme, puisqu'il y a déjà eu le coucher du soleil qui est considéré comme la nuit d'après la halakha. Mais tout le monde est d'accord qu'il faut un concept de nuit, pas de jour. Donc c'est ça la différence fondamentale avec la Hanouki, avec Hanouka. Je répète les trois notions qu'on ne trouve que chez Hanouka. Gauche, dévoilement extérieur et la nuit. Alors, toutes les mitzvot se font du côté droit. Certaines mitzvot se font du côté gauche. Il n'y en a qu'une d'ailleurs. C'est Tfilin. Mais la différence avec Hanouka, c'est que c'est Dafka pas la nuit. Tfilin, on n'a pas le droit de la faire la nuit. Et en plus, on doit la couvrir. Écoute bien Shmuel. Les Tfilin que tu mets effectivement du côté gauche ont deux différences avec la Hanoukia. C'est que tu n'as pas le droit de les mettre la nuit et tu dois les recouvrir. On recouvre les tefilines, soit on a le petit boîtier dessus au minimum, soit mieux d'après la Kabbalah, il faut vraiment les recouvrir, on remet le haut de la manche dessus, ou au moins le talit si on a des manches courtes. Donc ça c'est la différence fondamentale. Ça veut dire que les tefilines ressemblent à Hanouka que sur le point de la gauche. Ce qui veut dire que la seule mitzvah au monde qui contient tous les signes, on pourrait dire, de la matérialité, c'est Hanouka. Côté gauche, après le côté gauche, on a la nuit et l'extériorité, puisque ça doit briller justement à l'extérieur, dans la nuit, à l'extérieur. On pourrait même rajouter que par rapport au fait que ça doit briller aussi à l'extérieur, la nuit, rappelons-nous le temps qui est donné dans le Talmud, le temps qui est donné, pendant combien de temps doivent briller, on pourrait dire, les bougies de Hanouka. Elles doivent briller pendant le temps que le Talmud définit comme étant celui où se trouvent encore les derniers vendeurs du marché, qu'on appelle les Tarmoudaï. Les Tarmoudaï étaient, bon bien sûr c'est un mot qui fait allusion à quelque chose de beaucoup beaucoup plus profond que ça, mais au niveau on pourrait dire du sens littéral, les Tarmoudaï étaient une sorte de tribu, pas juive, qui était présente dans le marché, au marché pardon, et qui avait l'habitude de vendre assez tardivement après tout le monde, et c'était les derniers à partir du marché. Et donc quand on allumait donc la bougie de Hanouka depuis le début de la nuit jusqu'à ce que le dernier des Tarmoudaï ait quitté le marché. Pourquoi cet exemple du Tarmoudaï? Alors le sens plus profond, c'est que justement que le marché, le chouk, l'endroit où on vend, qui veut du poisson, qui veut ci, qui veut ça, c'est l'endroit, on pourrait dire, du business, c'est le Wall Street de l'époque, si vous voulez. À l'époque, il n'y a pas de Wall Street, là où on fait des affaires, c'est au marché. Donc le chouk étant d'ailleurs, comme on dit d'ailleurs en hébreu moderne, on continue encore à parler, quand on parle de business, on parle...
Marché.
Ah ben de toute façon, en français aussi, le marché de la bourse, Razak, le marché de la bourse. Donc, effectivement, le chouk étant donc le symbole du monde des affaires, et on dit juste, tu fais briller la Hanoukia pendant tout le temps du marché jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus un dehors, comme pour dire que justement que le symbole de cette lumière, c'est d'éclairer le monde de la matérialité, dont le symbole c'est le marché de la bourse, justement le marché où on fait des affaires. Et donc,
D'où est-ce que vous savez tout ça, Arabe ?
Comment ?
Vous savez tout ça ?
Mais d'abord, c'est mon métier. Quelle question surprenante ! Après des années que tu me côtoies.
Celle-là, elle est extraordinaire.
En plus, on est en direct, alors là, je te dis pas. Alors, je te répondrai comme la même question que mon cher Abénou, lorsqu'il a voulu voir dans le futur, d'accord, ce que deviendrait sa Torah. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Hachem l'a envoyé, par le biais de la prophétie, il l'a envoyé dans la classe de Rabbi Akiva, d'accord, donc des millénaires plus tard. Et il voit Rabbi Akiva en train de dire des choses absolument incroyables, et il voit tous les élèves comme ça. Alors, mon cher Abénou s'étonne, il a la même question que toi, il dit, mais d'où il sait celui-là tout ça? Je veux dire, d'où il sait? Alors, avant que lui pose la question, il y a un élève qui demande à Rabbi Akiva, il dit, mais Rabbi Akiva, mais d'où vous savez tout ça? Alors il lui répond, Alakha le Moshe mi Sinaï. C'est la Torah qu'on a reçue du Sinaï. Quand Moshe il a entendu ça, alors Nid Karera Dato. Alors il a dit, bon, ça va. Ça vient de moi, ça va. Et c'est marqué dans le Talmud explicitement. C'est marqué dans le Talmud explicitement.
Il n'a pas répondu la même chose.
Comment? Et donc, c'est marqué dans le Talmud, dans Maseret Shabbat, qu'on allume la Chanoukia jusqu'à ce que est terminé de travailler le dernier des Tarmoudaï, donc qui est le symbole de ce marché, de ce business, etc. Donc, en tous les cas, on a vu que la mitzvah de Chanouka, Kol Kula, dans toute son essence, symbolise la volonté d'Israël d'éclairer l'impossible. Le côté gauche, on l'allume du côté gauche, comme vous l'avez compris bien sûr, de la porte, en face de la mezouza, d'accord ? C'est une assistance, puisque la mezouza est à droite de celui qui rentre, et la Chanoukia se trouve à gauche de celui qui rentre. Donc on l'allume du côté gauche, comme pour montrer que son endroit, c'est l'endroit des clipotes, l'endroit de l'impureté, l'endroit difficile, l'endroit pas lumineux par excellence. La nuit, et on insiste pour dire la nuit et pas un autre moment, encore une fois, cas unique dans les mitzvot, et à l'extérieur. Ça aussi, l'extériorité, c'est unique. Pourquoi ? Parce que toutes les mitzvot se font à l'intérieur. On peut les faire à l'extérieur, mais il n'y a aucun inyan de faire une mitzvah à l'extérieur.
La soukha n'est pas à l'extérieur.
Elle n'est pas dans un endroit public, en tous les cas. Au contraire, mieux que ça. Dans la halakha, c'est rapporté qu'on ne fait pas la soukha dans un lieu public. On la fait à l'extérieur de sa maison, mais dans un lieu privé. Et pourquoi on la fait dans un lieu public ? Parce que tu dois la faire dans un lieu qui t'appartient, où tu as le droit de décider résidence. Si tu le fais dans un endroit qui ne t'appartient pas, alors il y en a même qui vont jusqu'à dire que tu n'es pas quitte de la mitzvah. Parce qu'il faut que ce soit que tu vives dans la soukha comme tu vivrais dans une maison. De la même manière que dans une maison, personne ne peut venir te déranger et te dire « Mais qu'est-ce que tu fais là ?» De la même manière, tu dois faire la soukha dans un endroit où personne ne peut venir te dire « Mais qu'est-ce que tu fais là ?»
Dans une forêt, c'est pas très cher.
Disons, si c'est un endroit qui est efker, que personne ne peut revendiquer, ça serait oui kasher, parce que là où je me mets, c'est comme à moi.
Ouais.
Mais si c'est un endroit qui a une propriété, on pourrait dire tsibourique, publique, alors ce n'est pas kasher. Enfin, il y a des avis qui disent que ce n'est pas kasher.
En Europe, tous les gens qui font dans les endroits où il y a toujours les conseils des bâtiments qui se plaignent parce que justement, ils ont...
Alors, je dis encore une fois, on va pas maintenant faire un cours sur soukha. L'idée, c'est comme j'ai dit, c'est un problème de faire une soukha dans un endroit qui peut être revendiqué par d'autres. Mais alors, quand on sera soukha, on fera un cours sur ça. Mais globalement, une soukha se fait à l'extérieur d'une maison, mais ne se fait pas dans un domaine public. Certainement pas. Tandis que la mitzvah de Chanukah, c'est précisément d'éclairer le monde public, le monde qui ne t'appartient pas, le monde qui est un autre monde que ton monde à toi privé. C'est une chose unique dans toutes les mitzvot, puisque toutes les mitzvot, comme on le sait, précisément, on doit les faire dans un endroit qui est fermé, comme on le sait, par exemple, la prière et d'autres mitzvot, je veux dire, ça ne se fait pas en public. Il y a des textes dans le Talmud qui disent que même l'étude de la Torah ne doit pas être dans un endroit public. Donc pourquoi ? Parce que la mitzvah est toujours un moment de rencontre, un moment intime entre Dieu et l'homme, entre Dieu et Israël, donc ça ne se déballe pas dans la rue, si j'ose dire.
Y a-t-il que Chabad qui ait fait justement cette extériorisation de la menorah ?
Parce que Chabad a poussé à l'extrême l'essence même de Chanouka, ce qu'on est en train d'expliquer. Tout le inyan de Chanouka, c'est l'extériorisation. Donc justement, donc c'est ce que le Rabbi a compris et a traduit en termes, on pourrait dire, concrets, justement, de propager plus que toute autre mitzvah la lumière de Chanukah dans le monde entier, avec des allumages grand écran dans le monde entier, etc. Parce que justement, c'est ça l'esprit de Chanukah. D'accord ? Jusqu'à une chose qui, au début, que personne ne comprenait quand ça a commencé, que on sait que les shlichim, par exemple, tenaient et tiennent jusqu'à aujourd'hui à faire allumer la Hanoukia, même par des non-juifs, par le maire de la ville, où on a vu en Russie Poutine allumé ou d'autres, etc. Et donc Bush allumé, ou le sénateur de tel ou tel État, le maire de Paris, le président de la France, peu importe. Pourquoi ? Depuis quand a-t-on vu, au début, quand le rabbi a lancé ça, puisque c'était encore à une époque où il l'a vu ? Et tout le monde s'est posé la question, enfin tout le monde, ceux qui s'efforcent, ceux qui s'acharnent toujours à ne pas vouloir comprendre. Mais comment tu peux laisser un non-juif allumer une Hanoukia ? La réponse, on est en train de l'avoir aujourd'hui, d'une manière détournée, puisque toute l'essence, tout l'esprit de cette mitzvah, justement, c'est d'éclairer l'extériorité, ça veut dire donc d'amener la lumière à un endroit où généralement elle n'arrive pas. Alors effectivement, aucune mitzvah n'arrive chez les non-juifs, des mitzvot traditionnelles que nous faisons, à l'exception de Hanouka, où on insère le non-juif dans l'allumage de la Hanoukia, parce que justement c'est une mitzvah qu'on pourrait appeler presque universelle, on arrive bientôt à la Grèce, il nous reste une demi-heure, et donc c'est une mitzvah qui se veut universelle, et justement c'est pour ça qu'on insère dans cette mitzvah toutes les nations.
Mais pourtant c'est pas que la Soukha qui est
comment
comme mitzvah universelle. Toute
la Soukha n'est pas
dit. De Ishayahu, que les nations reviendront, les 70 nations, c'est dans la Soukha. La Soukha du Mashiach,
je ne peux pas tout expliquer en un seul cours.
On n'a pas dit la Menorah du Mashiach, on a dit la Soukha du Mashiach.
Dafka, il y a la Menorah du Mashiach, oui.
En fait, Amikdash, c'était en fait la Menorah qui a été le prix.
C'était la Menorah, mais qui n'était pas une Hanoukia, avec que 7 branches.
Voilà, c'est pour ça. Ouais. Et la Menorah, de toute façon, éclaire aussi le monde extérieur.
Non, justement, c'est la différence. La Menorah, justement, c'est une lumière intérieure.
Mais elle pouvait... va vers l'extérieur. Elle n'était pas dirigée vers l'extérieur aussi.
Il y a une différence. Envers ailleurs. Il y aura d'autres cours sur Hanouka encore avant la fin de la semaine. Pas tout en même temps. Regardez, maintenant, on va continuer. La question sur Soukha, tu as raison, mais peut-être encore dans un autre cours sur Hanouka. Pour la Menorah et la Hanoukia, c'est justement très différent dans l'essence. Et c'est une question en tant que telle, puisque la Hanoukia provient de la Menorah du Temple. Or, elles ont des rôles très différents, puisque la Menorah est d'Aska à l'intérieur, et surtout pas à l'extérieur. La Menorah est allumée à un endroit où il n'y a pas de fenêtre pour que la lumière n'aille pas à l'extérieur. Et la Menorah est allumée le jour et surtout pas la nuit. Et la Menorah a 7 branches et surtout pas 8. Donc c'est tout le contraire de la Hanoukia, et c'est une question qui est très très connue. Dans la mesure, et les fenêtres étaient fermées, etc. Voilà. Dans la mesure où justement la Hanoukia est inspirée de la Menorah, comment se fait-il que tous les symboles qui existent dans la Hanoukia sont à l'extrême opposé dans la Menorah ? C'est exactement le contraire. Mais c'est une question qui est connue, on le verra plus aujourd'hui, mais on le verra puisqu'on va consacrer encore un ou deux ou trois cours sur Hanouka pendant cette semaine. En tous les cas, je reviens à ce que j'explique. Donc, ça c'est la mitzvah donc de Hanouka. La mitzvah de Hanouka, encore une fois, est donc liée à l'extériorité, nuit, gauche et à l'extérieur. Maintenant, ce qu'il faut arriver à comprendre, c'est en quoi tout ça c'est lié aux Grecs. Puisque n'oublions pas que l'histoire de Hanouka nous met en relation avec les Grecs, le troisième exil d'Israël. Alors, je ne sais pas si on pourra tout expliquer encore aujourd'hui, on continuera demain, mais commençons par le commencement. On a, après la sortie d'Égypte, 4 exils fondamentaux, qui sont Babylone, le premier temple est détruit par les Babyloniens. Après les Babyloniens, on n'a pas le temps de sortir de l'exil de Babylone, qu'on est déjà dans l'exil de Perse. On n'a pas le temps de sortir de l'exil de Perse, qu'on rentre dans l'exil de Yavan, la Grèce, dont la fête de Hanouka est le symbole. Et on n'a pas le temps de sortir de l'exil de Grèce, on rentre dans l'exil de Édom, de Rome, qui dure encore jusqu'à aujourd'hui. C'est le plus long de tous, 2000 ans. Globalement, au niveau stam historique, pour savoir au niveau du temps comment ça se passe, 70 ans pour le premier, à peu près 200 ans pour le deuxième, les Perses, plus ou moins 200 ans pour le troisième, les Grecs, et 2000 ans pour le dernier, les Romains, et leurs descendants bien sûr. Donc jusqu'à aujourd'hui, le monde occidental. Et donc, à quoi correspondent ces 4 exils ? Ces 4 exils, comme on le sait, j'ai déjà dit, correspondent aux 4 voilements de l'une des 4 lettres du nom divin. le nom divin, le tétragramme qui a quatre lettres, Yud, E, Vav, He, et chacun des exils est une tentative de la part des nations de voiler l'une des lumières divines dans le monde, et chacune de ces lumières s'exprime à travers le symbole d'une des quatre lettres du nom divin. Seulement, les voilements vont de gauche à droite, puisque les nations écrivent de gauche à droite, il n'y a que Israël qui écrit de droite à gauche, et donc, il y a aussi d'autres, mais peu importe, le premier peuple à écrire de droite à gauche, c'est Israël, c'est ce qu'on appelle l'hébreu, le ivri,
de gauche à droite.
De droite à gauche, et donc la Torah est née de droite à gauche, donc forcément l'exil, lui, va de gauche à droite, c'est-à-dire que le voilement se fait de la gauche, on retrouve la gauche bien sûr, le monde de la nuit, le monde obscur, le monde du mal, de la gauche vers la droite. Pourquoi la gauche vers la droite? Les forces de la gauche essayent de conquérir jusqu'à la droite. Et donc le voilement va se faire justement de gauche à droite, donc par rapport aux lettres du nom divin, l'exil de Babylone va voiler la dernière lettre du nom divin, qui est la première de gauche à droite, un « E ». L'exil des Perses, dont le symbole c'est bien sûr Pourim, Assuérus, va voiler l'avant-dernière lettre du nom divin qui est un Vav. Et enfin, on arrive bien sûr aux Grecs qui nous concernent, qui eux vont voiler le premier Ré du nom divin. Et l'exil dans lequel on se trouve maintenant, on sera forcément obligé d'en parler parce qu'il est lié à l'exil des Grecs, dans la mesure où les Grecs, ou plutôt Yavan, la Grèce, et on pourrait dire la force inspiratrice du monde occidental et du monde romain.
C'est la civilisation gréco-romaine.
Mais bien sûr, c'est qu'on dit la civilisation gréco-romaine. Par contre, on ne dit pas civilisation babylone, perse, etc. Il y a, bien sûr, tout le monde le sait, un lien fondamental entre la Grèce et la Perse, et d'après les maîtres de la Kabbalah, entre la Grèce et Rome, et d'après les maîtres de la Kabbalah, le lien entre la Grèce et Rome est le lien qu'il y a entre l'âme et le corps. La Grèce est à Rome ce que l'âme est au corps, ou ce que l'esprit est à la lettre. L'esprit fondateur de la civilisation romaine, c'est la Grèce, et Rome étant le corps, l'instrument, le réceptacle de cet esprit pour arriver à conquérir le monde. Et donc, automatiquement, il y a forcément un lien. Et c'est d'ailleurs pour ça que vous savez très bien que quand on parle du nom de Dieu au raccourci, on dit Yud-He. Comme pour dire qu'on ne dit jamais « va »,« va vhe ». Ça n'existe pas un nom divin qui serait les deux dernières lettres. Par contre, on a le droit d'appeler Dieu du nom de ses deux premières lettres, « ya ». Comme pour dire que ces deux premières lettres sont indissociables. On ne peut pas les séparer, le « yud » et le « e ». Et c'est pour ça qu'on va retrouver dans l'histoire qu'au niveau des exils, les deux exils qui sont le grec et le romain sont indissociables, ils sont vraiment l'un avec l'autre, parce que les grecs et les romains ne sont que deux facettes d'une même civilisation, comme on va expliquer. En tous les cas, les Grecs vont donc s'attaquer au Hé, donc deuxième lettre du nom divin de droite à gauche, et troisième lettre du nom divin de gauche à droite. Or, on sait que le nom divin correspond en vérité aux 10 attributs divins, comme je vais vous le montrer. Et si on retrouve les 10 attributs divins dans le nom divin, on va arriver à comprendre où se situe la Grèce. Et comment? Alors, je dois rajouter quelque chose que vous savez déjà, que je rajoute. Le Yud lui-même se décompose en deux. Il y a le Yud et il y a le Kot du Yud. La pointe du Yud est considérée comme une dimension en tant que telle. Le Kot du Yud, le He, le Vav et le E, ce qui veut dire que dans ces quatre lettres, il y a en vérité cinq dimensions qui sont la pointe du Yud, le Yud lui-même, puis le He, puis le Vav, puis le E. Et donc ces cinq dimensions font allusion à 10 sphirot, à 10 trucs communs. Alors, la pointe du Yud fait allusion au Keter, l'attribut qui est appelé la couronne. Le Yud lui-même fait allusion à la Chochma, le He fait allusion à la Bina, il n'y a pas de date puisqu'on a commencé par Keter, le Vav, valeur numérique 6, fait allusion aux 6 attributs de Chesed à Yesod, et le dernier He fait allusion à Malchut. On a donc retrouvé les 10 attributs divins dans le nom divin. Je reprends, Le kos du yud, c'est le keter. Le yud lui-même, c'est la chorma. Le premier he, c'est la bina. Le vav, les six attributs de chesed à yesod. Et enfin, le dernier he, est la malchut. Et donc, maintenant, si je reprends les exils et les sphirotes, j'arrive donc à quoi? Tout naturellement, que contre quoi s'est attaquée la Grèce? Contre la bina. Allez, comme on retombe sur nos pieds. Puisque le premier hé étant la bina, on vient d'expliquer que la Grèce voile ce hé-là, et donc effectivement, la Grèce s'attaque à la bina. Or, qu'est-ce que c'est la bina? La bina, c'est effectivement la avin davar mitor davar, c'est l'intelligence. La Grèce s'attaque à l'intelligence au nom de l'intelligence. La Grèce vient avec son propre 8 se battre contre le 8 d'Israël. Mais il y a une différence fondamentale entre le 8 d'Israël et le 8 de la Grèce. Pourquoi? Parce que le 8 d'Israël, c'est le 8 de la Bina, c'est-à-dire une intelligence qui est au-dessus de la nature, alors que le 8 de la Grèce, c'est « je pense, donc je suis ». Ça veut dire que je me fonde dans la pensée, je suis ce que je pense, je ne crois que ce que je vois, que ce qui se démontre, que ce qui se prouve, et je refuse d'admettre toute forme d'intelligence qui est au-dessus de ce que je peux comprendre. Donc c'est véritablement la guerre des cerveaux, la guerre des intelligences, le 8 des Grecs contre le 8 d'Israël.
8 sans critères.
Comment ?
8 sans critères.
Ben non, ça serait.
Pour les Grecs, oui, avec la.
Non, parce que si tu enlèves Keter et que tu mets Da'at, la Bina va se retrouver au 9. La Bina va se retrouver au 9 dans ce cas-là. Mais on va y arriver. Alors maintenant, on comprend pourquoi les Grecs s'attaquent à l'huile. Parce que l'huile se dit en hébreu Shemen. Shemen, qui est la racine du mot Shmoné. 8. Dans le mot Shmoné, c'est quoi la racine du mot Shmoné? Shemen. Le hé à la fin est une conjugaison. Donc, Shemen, Shmoné, 8, l'huile. En hébreu, le mot 8 et le mot huile ont la même racine. Et donc, on comprend pourquoi les Grecs s'attaquent à l'huile, parce qu'ils comprennent comment?
En français, 8.
Oui, en français aussi, je viens de le penser. 8 et 8. Et donc, en tous les cas, en hébreu, c'est mamash comme ça. Shemen Shmoné, c'est le même mot avec un « et » de différence. Et donc, il s'attaque à l'huile parce qu'en vérité, il s'attaque à la manière dont les Bnei Israël comprennent ce qu'est l'intelligence. Et quelle est la véritable guerre des Grecs contre une intelligence du type Brit Mila? C'est-à-dire, comment osez-vous prétendre que Dieu peut se révéler dans un endroit aussi vil que celui de la sexualité? Comment pouvez-vous oser mettre Dieu dans cette poubelle? Parce que eux utilisent ce membre-là comme une poubelle, et automatiquement ils ne peuvent pas imaginer que Dieu peut se révéler dans une poubelle. Aux Grecs, Israël répond, mais transformez votre poubelle en palais. Sachez vous comporter comme il faut avec une femme, et vous verrez que cet endroit-là peut devenir le palais de Dieu. Et c'est pour ça qu'on a fait une alliance à cet endroit-là. Mais les Grecs n'acceptent pas. Les Grecs disent que cet endroit est la bestialité dans l'homme qui est indomptable et qu'il ne faut même pas chercher à dompter. Les Grecs sont les précurseurs de cette philosophie. Laisse-toi aller, ne refoule rien et va selon ta nature, et plus tu iras selon ta nature et plus tu te sentiras bien. Ça, c'est la philosophie grecque. Donc, pour eux, imaginez qu'on puisse mettre le sceau du divin à cet endroit-là, c'est une aberration totale, puisque ça va contre toutes leurs aspirations de se laisser aller, de laisser libre cours à tous ces instincts ces instincts bestiaux.
Mais c'est surtout aussi ne pas comprendre, c'est-à-dire qu'il y a ici comme a priori une porte atteinte à la liberté des flammes de l'individu, c'est-à-dire
qui
en faisant la bride minard. on oblige finalement un être à... L'enfant ne joue pas son avis, je veux dire, on l'imprime.
Un choix pour lui, quoi.
On le met déjà dans...
De la même manière, exactement, de la même manière qu'effectivement, non, de la même manière qu'effectivement, écoute bien la réponse que je vais te faire, tu prives ton enfant de liberté lorsque tu le vois s'approcher de la fenêtre et que tu es au 15e étage, et que vite tu le prends et tu fermes la fenêtre et tu lui donnes une claque pour plus qu'il se rapproche de la fenêtre. Tu l'as privé à ce moment-là de sa liberté. Mieux vaut pour lui, bien sûr, tu comprends la réponse que je te donne. Il y a des fois où il faut effectivement priver l'homme de sa liberté, parce qu'il est comme un enfant qui risque de tomber par la fenêtre, et après il va hurler, « Mais pourquoi ne m'avez-vous pas attaché ? Drôle de liberté que celle que m'avez donnée, elle m'a tué votre liberté !» Donc ma liberté, longtemps je t'ai cherché, comme une perle rare, mais malgré tout, il faut faire attention, ce n'est pas toutes les libertés qui sont véritablement libératrices, il y a des libertés qui aliènent, comprenez ? Et donc, pour revenir maintenant au Nimshal, si tu laisses l'homme aller dans ce genre de liberté sexuelle et d'autres, on sait très bien où il arrive dans toutes les catastrophes de l'histoire. Donc, et après c'est lui-même qui te dit, mais pourquoi vous ne m'avez pas empêché d'aller vers ce genre de liberté? Donc le mot liberté est un mot extrêmement trompeur, et de toute façon, je veux dire, pas toi, mais ceux qui parlent de liberté sont les premiers dans la vie de tous les jours à faire exactement le contraire. J'aimerais bien les voir se comporter avec leurs nourrissons lorsqu'ils risquent de mettre la main dans le feu ou lorsqu'ils risquent de tomber par la fenêtre, etc. Hein, pourquoi tu dis pas liberté? Comprends? La seule différence, c'est que quand c'est une fenêtre ouverte, on voit la catastrophe, mais quand c'est une faute sexuelle, on ne voit pas la catastrophe. Alors on dit, mais laisse-moi libre. Celui qui a créé le monde et celui qui nous a donné la Torah voit tous les précipices et toutes les fenêtres ouvertes et il les ferme au fur et à mesure qu'on risque de se casser la figure. Donc, oui.
Le chiffre 8, ce n'est pas l'alliance de deux malheureux.
Bon, c'est pas un chiffre qui est dans la Torah, c'est un chiffre qui vient des nations, c'est un chiffre arabe. Donc je pense pas qu'on peut, à partir de quelque chose qui au départ ne vient pas de la Torah, construire des choses de la Torah, vous comprenez? Oui, mais encore une fois, je dis pas que c'est faux, mais j'ai comme la forme du chiffre 8 n'a pas été donnée par la Torah, on va se permettre de construire des notions de Torah sur quelque chose qui au départ n'est pas issu de la Torah, vous comprenez? C'est le chiffre 8, ça vient au départ des non-juifs, donc ça ne veut pas servir d'explication à la Torah.
Et ça ressemble en tout cas à l'assemblage de deux infinis. Voilà.
C'est ce qu'il dit, je dis quelque chose de vrai dans ce qu'il dit, mais je ne peux pas me permettre de commencer à construire, ni vous ni moi, des constructions de Torah sur une notion qui au départ n'est pas issue des maîtres d'Israël. En tous les cas, donc on revient à ce qu'on explique. Donc on a compris le combat entre les Grecs et Israël, et on comprend maintenant pourquoi les Grecs, on a un midrash bizarre qui nous dit que, à part tous les décrets, l'interdiction de pratiquer la Brit Mila, la souillure des huiles, il y avait un décret que les Grecs avaient imposé aux Juifs, aux cultivateurs juifs, donc à pratiquement tous les Juifs, puisqu'à cette époque-là, la seule moyen de revenu, c'est donc la terre, avait imposé aux Juifs. On vous laisse labourer à condition qu'il y avait un soldat qui vérifiait que tous les taureaux utilisés avaient sur leur corne une drôle de chose, de phrase gravée qui était « Enli chelek beloke Israël ». Je n'ai pas de part dans le Dieu d'Israël. Donc, ceux qui ne voulaient pas s'opposer aux Grecs, il y en avait d'ailleurs beaucoup, ceux qu'on appelle les Mitiavnim, les Hellénisants, ou ceux qui avaient tout simplement peur pour leur vie, d'autant plus que ce n'est pas encore quelque chose pour lequel il faut se laisser tuer, ça fait pas partie des trois choses pour lesquelles il faut se laisser tuer, donc on peut imaginer que des millions de taureaux en Israël avaient donc cette chose bizarre sur la corne, « Enli chelek beloke Israël ». Je n'ai pas de part dans le Dieu d'Israël. Alors pourquoi les Grecs obligeaient les cultivateurs juifs, donc tout Israël, à écrire cette chose-là sur les cornes du bœuf? Alors l'explication est très simple. Pourquoi Dafka à cet endroit-là? On se serait attendu à ce qu'ils obligent à ce qu'on le mette à l'entrée de la synagogue, ou à l'entrée des maisons, ou à l'entrée des villes. Non, sur les cornes du bœuf. Les Grecs étaient extrêmement chacham. Qu'est-ce qu'ils voulaient? Vous prétendez avoir une part dans le Dieu d'Israël. Nous aussi, on a le Dieu ci, le Dieu ça. Je veux dire, chaque peuple a son Dieu. Les Grecs étaient très respectueux, d'une certaine manière, de la religion. C'est pas le problème. Mais, quand ils sont arrivés en Eretz Israël, ils ont commencé à voir le nombre impressionnant. Vous savez que la majorité des mitzvot que l'on fait sont liées à la terre. Je ne sais pas si vous êtes amusé déjà à voir, mais c'est vraiment quelque chose qui vaut, à part le fait que c'est une mitzvah de le faire, mais qui vaut vraiment le plaisir intellectuel de le faire. Lisez les 613 mitzvot dans le Sefer HaMitzvot, etc. Il y a des Sefarim, Sefer HaMitzvot du Rambam. Passez en revue les 613 mitzvot. Vous voyez que la majorité des mitzvot sont liées à la terre. C'est fou le nombre de mitzvot qu'on a. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, que nous ne faisons pratiquement plus réellement les mitzvot liées à la terre, à toute façon, si on vient en route de l'Aretz, on peut dire que 90% du judaïsme a disparu. En vérité, 90% du judaïsme, c'est les mitzvot liées au temple et à la terre. Les deux extrêmes. Le monde d'en haut, le monde d'en bas. Mais en tout cas, liées à la terre, il y en a plus de 200 et quelques. D'accord ? Alors, quand les Grecs ont vu ça, ils ont dit, mais qu'est-ce que c'est ce peuple-là ? Au moment où il laboure, il fait ci, il fait ça, mais on ne comprend pas. La relation à Dieu, elle se fait dans un temple, elle se fait dans la maison à la rigueur, mais pas dans les champs. Et ils ont été choqués. Ils ont commencé à étudier la religion juive. Mais je parle de choses sérieuses, ça s'est rapporté. Ils se sont aperçus que la religion juive donnait une importance inimaginable à la dimension terrestre et à la présence de Dieu sur terre. Et ils ont commencé à comprendre que justement, pourquoi non seulement il y a des mitzvot liés à la terre, mais plus que dans n'importe quel autre domaine, parce que la religion juive signifie que Dieu se trouve sur terre et dans ce monde matériel plus que partout ailleurs. Et là, ils ont commencé à s'opposer. Ils ont dit non. Un Dieu à cet endroit-là, on n'en veut pas. Laissez-le dans les temples, laissez-le dans les synagogues, mais rendez à César ce qui est à César. Le monde matériel appartient à l'homme, ou aux astres, peu importe, ou aux dieux intermédiaires, ils en avaient je ne sais combien, mais le Dieu qui est au-dessus de tous, le Dieu créateur, lui, il est dans le ciel, il ne s'occupe pas de ce monde.
La séparation de l'Église et de l'État.
Mais c'est ça, mais c'est les précurseurs de la séparation entre l'Église et l'État, entre la synagogue et l'État, etc., entre tout ce qu'il y a aujourd'hui.
Ils ont craint que le judaïsme puisse avoir de l'influence sur...
Mais oui, parce qu'ils ont compris que c'est une religion qui va à l'encontre de toute la pensée grecque, qui justement voit l'esprit au-dessus de la lettre. C'est justement ça. Dans la pensée grecque, oi va voi si tu veux mélanger l'esprit et la lettre. La philosophie, c'est quelque chose, c'est un monde qui plane au-dessus d'eux.
Mais surtout, amener Dieu sur terre, vu le comportement qu'ils avaient...
Mais c'est impossible.
C'était impossible.
Parce que ça
les aurait empêchés d'agir selon leur instinct.
Mais évidemment, mais c'est justement ça.
Les athlètes nus commençaient...
Mais évidemment. Mais toute l'idéologie grecque, elle est fondée sur le fait qu'on laisse libre cours à l'animalité qui est sur terre. Et donc, si tu veux penser Dieu, tu le penses au-dessus de ce monde-là. Et donc, ils ne voyaient pas de... Comme on le sait, certains philosophes grecs avaient un comportement dans la vie de tous les jours qui était... On ne peut même pas en parler ici, alors que devant leurs élèves, ils étaient capables de parler de choses extraordinaires et magnifiques. C'est l'un d'entre eux qui, quand on l'a surpris, je ne sais où, vous imaginez, et ses élèves ont été choqués, c'est lui qui a répondu, mais faites ce que je vous dis, ne faites pas ce que je fais. Ça vient de ce fameux philosophe grec qui a été pris dans une cochonnerie inimaginable, et qui a répondu sans avoir honte, sans mourir de honte, mais faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais. Donc chez le grec, il n'y a pas de honte à être coupé en deux.
Oui, ça.
Voilà. Le haut, c'est le haut, le bas, c'est le bas. C'est quand le Talmud fait une allusion à la philosophie grecque en disant à quoi ça ressemble. Ça ressemble à une immense créature, d'accord, qui est ange à partir d'au-dessus de la ceinture jusqu'en haut, et qui est monstre d'en dessous de la ceinture jusqu'en bas. Il s'appelle Hormizd. On l'appelle Hormizd. Bon, ça fait aussi allusion dans les mois, quelque chose, peu importe. Il est monstre et ange. Ça veut dire que chez le grec, il n'y a pas d'homme. Ou t'es un ange ou t'es un monstre, mais t'es jamais un homme. Alors que chez nous, on est un homme. On veut ni être un ange et ni être un monstre.
Ils n'ont pas les représentations, justement, homme en...
Mais évidemment, et ils en plein, justement. Mais celle-là, je ne sais pas s'ils l'avaient. En tout cas, c'est comme ça que le judaïsme voit la Grèce. Où ils sont parfaits ou ils sont pourris. Mais ils ne peuvent pas être tout simplement des hommes, avec des hauts et des bas et un travail, etc. En tous les cas, donc maintenant, on a compris pourquoi Et on va terminer pour aujourd'hui. On a compris pourquoi il demandait donc à Israël d'écrire sur les cornes du bœuf « À cet endroit-là, vous n'avez pas de part. » Que vous vouliez servir Dieu dans la synagogue, nous aussi on sert nos dieux dans nos temples. On n'a pas, de contradiction à ça. Mais pas sur la terre. Voilà. Et donc automatiquement, il y avait donc... C'est encore une fois cette lutte du 8, et on continuera donc la prochaine fois demain ce cours-là, Bezrat Hashem.